Card World Elite, la carte prestige de Banque Atlantique qui vous donne accès à plus de 1000 salons d'aéroports LoungeKey et à des offres exclusives, vous propose appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Arnaud Pontus.
Bonjour et bienvenue dans Appel sur l'actualité. Je suis ravi de vous retrouver pour une émission spéciale ce lundi, il y a 40 ans, le 6 novembre 1982. Paul Biya devenait président de la République du Cameroun. 40 ans de pouvoir, 40 ans de réélection, parfois contestée, 40 ans de discrétion. Paul Biya parle bien peu. Alors quel bilan pour le Cameroun et les Camerounais? Quelle perspective? Quand sera-t-il de la succession? Succession, c'est un mot tabou, mais il revient beaucoup, beaucoup dans les questions et les commentaires que vous nous avez envoyés. Le standard est ouvert, 33 9 693 693 70. Vous avez la parole, comme chaque matin, pour nous donner votre avis et poser vos questions aux deux invités qui vont nous accompagner jusqu'à 10h. Mathias Erikowenanguini, professeur de sciences politiques, vice-recteur de l'université Yaoundé 2. Merci d'être avec nous et bonjour.
Bonjour, c'est l'université de Yaoundé 1.
Yaoundé 1, voilà, je vous avais surclassé en deux, je suis désolé. Et Philippe Nanga est également avec nous, coordinateur d'Un Monde Avenir, association de défense des droits humains. Merci et bonjour à vous.
Bonjour et salut à toutes les auditeurs et à tous les auditeurs qui nous suivent en ce moment.
Merci à tous les deux de nous accompagner. Alors un anniversaire, c'est forcément l'occasion de tirer un bilan. La parole aux auditeurs, d'abord, première salve de commentaires, avant d'en venir précisément aux questions. Pour commencer, on rejoint à Yaoundé Joseph. Bonjour Joseph.
Bonjour Arnaud, bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Vous êtes professeur de communication à l'université et vous tirez un bilan mitigé de ces 40 années.
Oui, il faut dire que si d'un point de vue purement simpliste, on peut dire qu'il y a eu des avancées parce qu'au niveau de l'éducation, il y a eu une multiplication à l'exponentielle de salles de classe, d'établissements scolaires, d'universités. Il n'en demeure pas moins vrai que toutes ces multiplications n'ont pas été suivies des éléments qui puissent permettre de dire que l'école a avancé au Cameroun. Il y a une insuffisance de salles de classe, il n'y a pas suffisamment d'enseignants, tant dans le public que dans le privé. Encore, le privé, c'est plus criant parce que les gens qui y enseignent n'ont pas souvent le niveau. Il n'y a pas d'effet de scolarité, n'est-ce pas, au niveau du Cameroun moyen. Quand vous êtes dans un lycée, si vous n'avez pas au moins 40 000 francs, vous ne pouvez pas payer vos frais. Alors qu'à l'époque, il y a 40 ans, quand Paul Biya arrivait au pouvoir, on ne dépensait pas un copec pour aller à l'école. Mieux, on avait une bourse pour aller fréquenter. Il y a aussi la précarité des enseignants qui a fait que ceux-ci rançonnent les étudiants et les élèves pour survivre. On fait les polycopies qu'on vend aux élèves, on leur impose telle ou telle chose parce qu'on est obligé de le faire puisque le salaire ne suit pas. Et oui, la pire des choses, c'est que les classes sont abondamment peuplées, Arnaud.
Surchargées.
On ne peut pas imaginer que... Oui, vous ne pouvez pas imaginer que dans un lycée, on a des salles de classe de 120 élèves, alors que quand Paul Biya arrivait au pouvoir, il y avait des salles de classe de 46. C'est vrai, il n'y avait pas assez de lycées, mais on était à 46 par salle de classe. Aujourd'hui, il y a des salles de classe de 120 élèves à l'amphithéâtre qui est fait pour prendre 700 élèves. Ils sont à 3000. Vous ne vous levez pas le matin à 5 heures pour aller prendre une bonne place. Et Mathias Olanguini, qui est là, sait de quoi je parle. Vous ne pouvez pas suivre le cours étant assis. Et je me demande comment un enseignant peut suivre 3000 étudiants pour un cours. Ouais. Moi, je dis que...
Merci. Je vous en prie, oui, terminez votre phrase.
Oui, je dis que le pouvoir a raté le coup. Parce que même si on a multiplié les filières pour créer celles qui peuvent permettre aux Camerounais d'apprendre un métier, on n'a pas mis à côté des structures qui puissent permettre aux apprenants qui ont des diplômes de s'intégrer ou de créer des structures. Il n'y a rien et rien au niveau de l'État qui assiste les enfants qui sont diplômés pour former des groupes et créer des entreprises qui peuvent permettre de renforcer le tissu économique du Cameroun.
Merci,
et la conséquence, si vous permettez, c'est que vous allez trouver le moto taximan, il a une licence, vous allez trouver le Bayam Salam qui est au marché, elle ou il a un baccalauréat ou un BTS. Voilà le bilan sommaire qu'on peut dresser concernant l'école au Cameroun.
Le bilan que vous dressez, vous Joseph, en tant qu'enseignant, puisque Mathias Erikowenanguini est avec nous, est-ce que vous seriez aussi sévère sur le bilan de ces 40 ans?
Pas du tout. Je pense qu'il faut d'abord savoir d'où on est parti avant de mieux apprécier ce qu'il y a eu comme transformation positive, avant d'évaluer également ce qui reste à faire, parce que le Cameroun est toujours un pays en développement, dont il peut avoir des progrès même relativement importants, mais face aux problèmes de départ, évidemment, il y a des choses à compléter. Bon, je voudrais souligner certaines...
En quelques mots, s'il vous plaît. En quelques mots.
Je voudrais souligner certaines inexactitudes dans ce qui s'est dit. Il faut savoir que sur le plan scolaire et universitaire, c'est un pays qui a changer de manière irréversible. Vous ne pouvez pas comparer le Cameroun de 2022 à celui de 1982. En 2022, il y a 10 universités d'État. Il y a des institutions privées d'enseignement supérieur. Je ne parle pas de la démultiplication des établissements d'enseignement maternel, primaire et secondaire. Il n'y a même pas de comparaison possible. Le pays a changé de dimension. Sur le plan sanitaire, aujourd'hui au Cameroun, vous avez pratiquement des centres, des hôpitaux régionaux de référence qui sont complètement modernes dans les 10 régions du Cameroun actuel. Il y en avait combien en 1982? On pourrait ainsi multiplier pour dire qu'en fait, le pays n'est plus dans la même dimension. Et c'est peut-être aussi là que se posent les problèmes. Pour finir, votre interlocuteur de tout à l'heure disait que il n'y avait pas les mêmes contraintes en termes d'inflation. Évidemment, le Cameroun aujourd'hui est un pays plus ouvert, et étant plus ouvert au monde, il subit aussi les contre-coups de cette ouverture.
Merci pour ce point et ces réponses à Joseph qui nous appelait de Yaoundé. On ne va pas engager le débat totalement ici sur ces questions-là. Je voudrais qu'on rejoigne Patrick qui est à Düsseldorf en Allemagne et qui est Camerounais. Et vous, dressez-vous carrément un bilan négatif de ces 40 années? Pourquoi, Patrick?
Je veux prendre un secteur. Bonjour d'abord à vous. Et à
oui,
tous
bonjour,
les
bienvenue.
Oui, je veux prendre juste un secteur qui touche tous les Camerounais. Secteur social, celui de l'eau et de l'électricité. Vous allez dans une ville comme Yaoundé, qui est la capitale du Cameroun, et tout dit, le quartier en face du palais de la République, il n'y a pas d'eau, c'est un fait. Monsieur Onan Guigny, qui parle qu'au Cameroun actuellement, demandez-lui d'ouvrir son robinet s'il a de l'eau. Si l'eau coule, il ne peut pas la boire. Il a chez lui sûrement des bidons, des fûts, comme chez tous les Camerounais actuellement au Cameroun, pour récupérer de l'eau quand elle coule. Il a sûrement chez lui un forage, pour... bon, pas lui, je ne me présente pas sur lui.
C'est pas...
Tous les Camerounais
voilà,
dans l'ensemble,
on est d'accord.
Ils ont des fûts à la maison, ils laissent le robinet ouvert, ils vont se coucher le matin, pour qu'ils entendent les bruits avec les portes ouvertes quand l'eau coule pour aller récupérer. Et c'est invivable. Il y a le choléra à Douala, au nord Cameroun, n'en parlons pas. Je parle de l'eau. L'eau, les Camerounais n'ont pas d'eau. Il y a des villes comme Consamba, où il y a des quartiers qui ont fait 5 ans. J'y étais, je suis au Cameroun 2 fois par an pour des projets sociaux. Il y a des quartiers qui ont 5 ans sans eau. Vous allez sur la route Douala-Yaoundé, Douala-Bafoussam, au niveau du pont du Petit Camp, une station de pompage qu'on a créée là-bas, qui ne fonctionne pas parce qu'il n'y a pas d'électricité pour pomper de l'eau. Il n'y a pas d'eau au Cameroun. Pour l'électricité, n'en parlons plus. Vous avez des surtensions qui viennent à tout moment où les appareils sur les gens sont détruits. Dans les maisons, les congélateurs, il y avait les produits alimentaires à l'intérieur qui ne fonctionnent pas. Les gens sont obligés de manger les poissons pourris, les viandes.
Oui, donc vous pointez,
je vous parle à Bonaberry.
Oui, vous pointez le manque d'eau, le manque d'électricité, le manque de réseau de base, pourrait-on dire. Hein.
Je pense qu'en 40 ans, on devrait avoir... Oui. Ça, c'est le minimum qu'on devait offrir aux Camerounais. Ne parlons
pouvoir
pas des
accès.
Bilans des FMI et de Banque mondiale.
Ça, c'est autre chose.
Ce sont des trucs
qui
sont palpables, oui. Pour que la grande au village peut savoir, il y a des quartiers à Yaoundé, à Mfou. À côté, là, ils n'ont jamais eu un raccordement à l'électricité.
On a bien entendu, Patrick. On a bien entendu que vous vouliez insister sur le quotidien des Camerounais qui, selon vous, ne s'est pas franchement amélioré. Sur ce point, Philippe Nanga, coordinateur d'Un Monde d'Avenir, votre point de vue?
Oui, merci. Je voulais d'abord revenir sur l'éducation.
Et rapidement, parce que sinon, on va faire débat dans débat et on n'arrivera pas au bout de l'émission.
Mais
je comprends, bien sûr.
C'est juste pour indiquer avec des chiffres. Hein, en 1982,
la poursuite des études jusqu'à la fin du primaire, on était à 69% d'enfants qui finissaient leur cycle primaire. En 2018, n'est-ce pas, sans les chiffres de la Banque mondiale, en 2018, nous étions à 64%. Donc, on a régressé. Donc, juste pour répondre à cette question.
Une
maintenant,
sur chiffrée.
La question de les énergies, non, l'accès à l'eau, à l'énergie, c'est bien connu. Si vous voulez, moi, je suis à Douala, c'est normalement la plus grande ville, la première grande ville du Cameroun, et c'est la capitale économique. Je vous garantis que vous avez plein de quartiers qui ne sont pas connectés à l'eau, plein de quartiers qui existent. La plupart de personnes ici qui ont un peu de moyens se sont offert un forage. C'est comme ça. Donc, si vous réveillez le matin, les gens sont alignés devant des maisons qui ont des forages. L'eau, c'est totalement incertain. Ça, c'est connu. Voilà. Donc, l'électricité, c'est pareil. Donc, là, on vient de vivre une semaine entière, hein, toute une commune qui a près de, qui n'a pas moins d'un million d'habitants, la commune de Douala Cap, qui a passé toute la semaine.
Ah, on ne vous entend plus, Philippe. On va essayer de vous retrouver. Philippe Nanga, coordinateur d'Un Monde d'Avenir. Ça me permet de passer à Marcel, qui est à Yaoundé. Bonjour à vous, Marcel. Bonjour, Marcel. M'entendez-vous ?
Oui, bonjour.
Bienvenue sur l'antenne de RFI. Vous vouliez pointer des questions économiques, mais en quelques mots, s'il vous plaît, parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui veulent nous parler ce matin. Vous dressez un bilan économique mitigé. Vous dites qu'évidemment, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais qu'il y a eu tout de même des progrès. Quels progrès pointez-vous en particulier, Marcel ?
Bien, bonjour à tous vos auditeurs et bonjour à tous ceux qui font le plaisir d'écouter Appel Actualité pour faire le bilan de ce qu'a été le règne du président Paul Biya en 40 ans. Vous parlez de bilan, et je parle effectivement d'un bilan mitigé. Et la question est de savoir, est-ce que le Camerounais, lambda, mange à sa faim? On peut dire qu'il mange, mais est-ce qu'il mange véritablement à sa faim? Je dirais que non. Et je pense qu'on pouvait faire un tout petit peu plus que ce qui n'a été fait jusqu'à présent. Et parlant de bilan, il y a certes une ouverture, une diversification des partenaires économiques. Mmh. Ce ne sont plus exclusivement les pays de l'Union européenne qui s'en occupent, mais il y a une ouverture vers l'Asie, la Chine et plusieurs États, entre autres la Turquie, en parlant. Donc, pour parler de bilan, on pense effectivement qu'il y a un certain nombre de choses qui devraient être faites pour que la réduction.
Alors, Marcel, nous l'avons perdu aussi, petit problème de ligne. Marcel qui nous disait que le bilan était économique était mitigé. On ne va pas pouvoir épuiser évidemment ici les questions autour du bilan de ces 40 ans de présidence. Ça n'est pas l'objet unique de l'émission. Je voudrais qu'on s'arrête sur un autre aspect. C'est la longévité exceptionnelle de cette présidence Biya. Paul Biya a ce poste depuis le 6 novembre 1982, 40 ans donc. Nous sommes avec Hadji qui est de Gaoundéré. Bonjour Hadji, bienvenue sur l'antenne.
Bonjour Arnaud, bonjour à tous les auditeurs.
Et quelle est votre question à nos deux invités ce matin à propos de ces 40 ans de présidence ?
La longévité de Paul Biya est-elle due à une absence d'opposition politique d'envergure depuis 40 ans?
Alors, est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas d'opposant que Paul Biya se maintient au pouvoir depuis 40 ans? Votre point de vue, Mathias Eric Owanangini?
Si le président Biya est au pouvoir depuis 40 ans, c'est en raison de la qualité de son art politique. C'est un politicien qui a une certaine virtuosité et qui, en tant qu'entrepreneur politique, a su conduire les stratégies qui lui permettent de rester longtemps. À cet effet, il dispose d'un parti puissant, qui est incontestablement le parti le mieux implanté du Cameroun, qui est présent dans toutes les circonscriptions du Cameroun, pratiquement sur les près de 368 arrondissements. Il y a autant de représentations du RDPC. Et ensuite, évidemment, l'opposition n'est pas au niveau. Elle n'est pas au niveau en termes logistiques. Elle n'a pas la capacité matérielle de s'implanter sur le territoire. Elle n'est pas au niveau, même au niveau du contenu des propositions. Ces propositions ne sont pas suffisamment matures. On fait beaucoup de démagogie. Elle n'est pas au niveau en termes de stratégie. Comment dans tout cela vous voulez que le président Biya et sa formation politique ne soient pas largement dominant. Oui,
vous dites que c'est l'art politique de Paul Biya et la solidité des structures de son parti qui explique cette longévité. Sur la longévité, Jude, qui est à Yaoundé, avait également une question. Est-ce qu'il est avec nous, Jude? Alors, je vais me faire son interprète puisqu'il n'est pas en ligne. Comment Paul Biya est-il parvenu à se maintenir au pouvoir aussi longtemps? C'est vrai que c'est une question qui revient beaucoup hein, dans vos commentaires. Philippe Nanga, je voudrais votre point de vue en tant que coordinateur d'un monde d'avenir.
Oui, c'est intéressant cette question parce que un monde d'avenir travaille beaucoup sur les questions de suivi des processus électoraux au Cameroun. Je crois que Mathias, qui est là, a été un des acteurs dans les formations des partis politiques, de la société civile, sur cette matière-là. Il a fait un art exceptionnel, le président Biya, pour se maintenir au pouvoir, mais c'est, ça n'a rien à voir avec l'incapacité ou bien déficit de personnalité politique apte à pouvoir prendre le pouvoir. Non, c'est simplement une stratégie qui a été mise en place qui repose sur un certain nombre de piliers. Le premier pilier étant la répression, hein, la réduction de l'espace civique. La concurrence politique ne peut pas être saine quand l'espace civique est fermé complètement. La stratégie du président Biya repose sur le contrôle total, n'est-ce pas, des process politiques. Il contrôle l'ensemble des dispositifs permettant, n'est-ce pas, de réguler, n'est-ce pas, l'environnement politique, sociopolitique au Cameroun. De ce fait-là, n'importe quel homme politique qui essaierait ne pourrait pas. En 92, plusieurs formations politiques se sont mises ensemble pour créer une coalition. On a vu ce que ça a donné, hein, les informations officielles. Oui. Disent que le candidat de l'opposition à cette époque-là, qui était un fournier, avait gagné les élections.
Philippe Nanga, ce que vous êtes en train de nous décrire, c'est un système qui empêche l'opposition d'émerger.
Bien entendu, puisque, je prends un exemple. Le MRC, qui aujourd'hui est très en vue dans l'espace public, il lui est pratiquement impossible de tenir un meeting. Alors comment voulez-vous qu'un leader politique puisse émerger quand il n'a pas la capacité de vendre son offre politique? Comment on fait pour vendre son offre politique quand on n'a pas la capacité de s'exprimer librement? C'est ça le problème. Monsieur Biya ne s'exprime jamais. Il s'exprime à travers des personnes interposées et qui s'imposent à nous, à toute la population. Les partis politiques n'ont pas la capacité de se déployer sur le terrain.
On a entendu,
comment
Philippe.
Comment vous pouvez donc faire concurrence à quelqu'un qui ne vous permet pas, n'est-ce pas, de vous rendre visible par les citoyens qui doivent, n'est-ce pas, se prononcer sur qui on doit voter ou pas.
On va pas faire un débat ici, mais je voudrais le point de vue, en un mot et quelques secondes, de Mathias Erico Wananguini, qui est professeur de sciences politiques. Est-ce que Paul Biya doit aussi sa longévité au contrôle total qu'il exerce sur le monde politique?
C'est un argument commode que l'opposition utilise pour justifier sa faiblesse. Monsieur Nanga disait tout à l'heure, et c'est une inexactitude, le candidat dominant de l'opposition n'a pas remporté l'élection présidentielle en 1992, c'est-à-dire John Fundi, qui était le candidat de l'Union pour le changement, il est arrivé deuxième.
Il y a eu forte contestation à l'époque.
Mais il y a toujours des contestations. Oui. C'est pas parce qu'il y a des contestations que les contestations
sont... Je le fais remarquer, simplement.
Oui, il y a toujours des contestations. Je dis et je répète que l'opposition camerounaise est faible. Elle est dispersée. Elle n'a pas de capacité logistique. Elle a une capacité en termes idéologiques très faible. Elle n'est pas suffisamment représentée sur tout le territoire. Voilà ses principaux problèmes. Et ensuite,
et c'est ce qui explique cette longévité. On a compris votre point de vue à tous les deux. Merci. Vous restez avec nous, bien sûr, puisque cette émission spéciale d'appel sur l'actualité se poursuit. On va continuer de parler de cette longévité exceptionnelle de Paul Biya au pouvoir au Cameroun. On va retrouver Jean-Lucien qui nous attend à Yaoundé et qui a des choses à nous dire à ce propos. Vous restez avec nous, bien sûr. La suite de l'émission, c'est dans 10 minutes et tout de suite l'actualité africaine.